plaisir aujourd'hui d'accueillir Patrick Artus. Je ne sais pas si c'est très utile de le présenter.
Si.
Il est quand même très connu. Et ceux qui participent aux Journées de l'économie doivent savoir que depuis le début, et même avant que les Journées de l'économie existent, c'est certainement un de ceux qui a le plus contribué à aider à mettre en place cette manifestation, à y croire quand c'était encore quelque chose d'assez improbable. Et je l'en remercie profondément. Patrick Artus, c'est le chef économiste de Natixis, c'est un membre éminent du Cercle des économistes, c'est un membre du comité scientifique des Journées d'économie.
Merci beaucoup Pascal. D'ailleurs, pour vous donner un exemple de ce qu'on fait, et pour ceux que le cas français intéresse, en partant, vous pourrez prendre un papier dans cette pile bleue. Ça s'appelle la théorie du sandwich. Vous verrez, c'est l'analyse des problèmes de compétitivité de la France, qui n'est pas mon sujet central cet après-midi, sauf si vous avez bien sûr tout à l'heure des questions plus spécifiquement sur le cas français. Comme Pascal l'a annoncé, je voulais plutôt me concentrer sur la problématique européenne et effectivement essayer de traiter la façon qui me paraît la plus importante et la plus claire possible le problème de compétitivité et de croissance dans la zone euro, en me demandant d'abord quel est le problème fondamental de fonctionnement de la zone euro et qu'est-ce qui fait que la zone euro est en crise et a ce problème épouvantable de récession durable que nous connaissons, alors que les États-Unis, par exemple, redémarrent. Ensuite, je me demanderai comment on envisage dans les institutions européennes, dans les gouvernements, la correction du problème, et qui est essentiellement à ce stade la correction du problème de compétitivité. Et ce que je montrerai, c'est que, d'une part, le problème de compétitivité n'est qu'un morceau, petit peut-être, du problème de la zone euro, et d'autre part, que la façon dont nous le traitons est extrêmement dangereuse et peut, au contraire, approfondir la crise. Et puis, troisième et dernière partie, je parlerai des solutions pour vraiment sortir de la crise et restaurer la croissance de la zone euro, et qui sont des solutions qui sont économiques, mais à condition qu'avant qu'on traite les problèmes économiques, on ait résolu les problèmes institutionnels de l'Europe. Et donc j'essaierai de donner quelques indications sur la nécessité et le fait absolument central d'être capable d'avancer institutionnellement, et pas simplement sur la finance ou sur l'économie, si on veut sortir de la crise et retrouver un sentier de croissance dans la zone euro. Voilà, et puis après, il sera 9h du soir, et donc nous pourrons passer à la séance de questions. Donc bien sûr, je serai ravi de répondre à toutes les questions que vous pourrez avoir autour de ces sujets ou sur des sujets voisins. Alors, juste, je voudrais faire en introduction un tout petit rappel, et puis après, je vous montrerai quelques photos de vacances pour illustrer les différents points. Un tout petit rappel qui est la question suivante. Pourquoi construit-on des unions monétaires? Parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut rappeler, et puis dont on a l'impression que c'est assez largement oublié dans le débat et chez les hommes politiques. Quel est l'objectif de la construction d'une union monétaire? Et l'objectif de la construction d'une union monétaire, il n'y en a qu'un, essentiel, et il est assez simple, c'est de permettre que l'épargne, enfin il y en a deux, disons, mais qui sont très très liés. Le premier, c'est de permettre que on va parler de la zone euro, donc disons zone euro, qu'à l'intérieur de la zone euro, l'épargne circule librement et finance les projets les plus efficaces où qu'ils soient. Donc on veut, par exemple, pour être simple, qu'on puisse utiliser l'épargne des Allemands pour fabriquer des projets rentables et utiles au Portugal, par exemple. Et ceci est très difficile à faire si on n'est pas dans une union monétaire, puisque si vous avez du risque de change, c'est-à-dire si les taux de change peuvent varier, vous allez très difficilement convaincre un investisseur allemand de prêter au Portugal, puisqu'il risque de perdre, de faire une perte liée au mouvement des taux de change. Donc la fixité, la disparition des taux de change, donc le fait qu'on soit dans l'euro, normalement facilite très grandement les mouvements internationaux de l'épargne à l'intérieur de la zone euro. Et je vais revenir dans un instant pour montrer que ceci s'est bien produit, mais d'une façon chaotique, qui est une des causes de la crise. Et puis, deuxième objectif de l'unification monétaire, et là, on rentre dans quelque chose qui est central dans notre réflexion avec Isabelle, puisque c'est des choses que vous trouvez aussi dans le livre qu'on a fait l'année dernière, c'est que l'unification monétaire permet de mettre les activités productives là où il est le plus efficace qu'elles soient. Et ça, c'est quelque chose qui a été extrêmement mal compris. Bien sûr, je vais revenir sur tout ça, hein, ne vous inquiétez pas, mais ça me paraît très important de dire dès maintenant que ça a été extrêmement mal compris. Regardez les États-Unis. Aux États-Unis, on fabrique les biens, enfin les régions se sont spécialisées. On fabrique les différents biens et services, essentiellement dans certaines régions. Donc l'électronique, c'est en Californie. Les voitures, c'est autour des Grands Lacs et un petit peu maintenant dans le Sud. Le pétrole, c'est au Texas. Mais enfin, ça, c'est pas un choix délibéré, c'est juste que c'est là qu'il y a du pétrole, quand même. Mais l'industrie de l'armement, c'est dans le Nord-Est. L'industrie des médias, c'est en Géorgie. Enfin, et donc, il y a une spécialisation des régions qui est parfaitement efficace. Ça ne viendrait pas à l'esprit d'un Américain d'essayer de réindustrialiser la Floride, hein, ou de recréer la Silicon Valley en dehors de Californie. Et ceci, c'est une très grande efficacité par rapport à une situation où les activités sont dispersées et où on ferait tout partout. Hein. Donc, et bien sûr, je vais y revenir, parce que vous verrez, j'espère à la fin, plus clairement, pourquoi ceci est le problème absolument central de fonctionnement de l'Europe, de la zone euro, que, à nouveau, cette spécialisation des régions en termes de production, elle n'est possible qu'une fois qu'on a éliminé les variations des taux de change. Alors, je reprends l'exemple de l'Allemagne et du Portugal. Tant que l'escudo, hein, qui était la monnaie du Portugal, pouvait se déprécier, et dans l'histoire, il s'est déprécié de façon considérable par rapport aux marques allemandes, on ne pouvait pas fabriquer en Allemagne des voitures pour les vendre aux Portugais. Puisqu'effectivement, quand l'escudo baissait, ces voitures devenaient beaucoup trop chères pour les Portugais. Donc on était obligé de fabriquer au Portugal les voitures pour les Portugais. Du jour que le Portugal et l'Allemagne ont eu la même monnaie, eh bien, on a pu fabriquer en Allemagne, ou en Allemagne, ou en Slovaquie maintenant, hein, ou où vous voulez en Europe centrale, dans l'euro, on a pu fabriquer en Allemagne les voitures pour les Portugais, puisqu'il n'y avait plus de risque de baisse de l'escudo, hein, et donc il n'y avait plus de risque de change sur le prix auquel on allait pouvoir vendre les voitures. Donc évidemment, la disparition des taux de change est une condition nécessaire à ce processus où les régions se spécialisent. Hein. Alors je vais y revenir tout de suite pour expliquer que pas grand monde n'avait compris cela au moment de la création de l'euro et qu'une partie très importante de nos problèmes viennent de la non-compréhension initiale, hein, de ce qu'on recherche finalement, hein, en faisant une zone euro, une union monétaire. Et puis dernier point avant que je rentre dans le vif du sujet, une union monétaire, ce n'est pas fait pour améliorer directement la macroéconomie. Enfin, c'est des objectifs extrêmement microéconomiques, c'est la bonne utilisation de l'épargne pour financer des projets efficaces là où ils sont, et c'est la bonne répartition géographique des activités pour gagner de l'efficacité. Donc c'est de l'efficacité microéconomique que vous recherchez. La macroéconomie, forcément, pose problème, puisque au lieu d'avoir une politique monétaire, un taux d'intérêt, un taux de change par pays, vous n'avez plus qu'une seule politique monétaire, un seul taux d'intérêt et un seul taux de change, et donc vous perdez énormément de degrés de liberté de la politique économique. Donc la politique macroéconomique est beaucoup plus compliquée à assurer dans une union monétaire, bien sûr que dans chacun des pays. On ne peut pas baisser les taux d'intérêt spécialement dans un pays s'il va mal, quoi, hein. Donc il faut bien se rendre compte que ce qu'on recherche, c'est des avantages microéconomiques en espérant qu'ils vont compenser la perte macroéconomique qui vient de ce qu'on n'a plus qu'une seule politique monétaire pour cet ensemble de pays, alors qu'avant, il y avait 17 politiques monétaires différentes, donc incroyablement plus de flexibilité dans la politique macroéconomique. Alors, je rentre maintenant dans le premier de mes trois points. Je reviens sur l'hétérogénéité, hein, et sur le rôle absolument central qu'a joué l'hétérogénéité dans le déclenchement et le maintien de la crise. Parce que, histoire que vous partiez de bonne humeur, hein, je dirais tout à l'heure que la crise, elle n'est pas finie, quoi, hein, contrairement à ce que laissent entendre parfois les journaux. C'est même pire que ça, c'est qu'elle est devant nous. Hein. Mais partez pas tout de suite. Alors, quel est le problème ? Au moment de la création de l'euro, on a eu, et dans le bouquin avec Isabelle, on cite des citations des fondateurs de l'euro, hein, ou qui montraient qu'il y avait eu une vision assez erronée consistant à dire, eh bien, du moment que nous allons avoir les mêmes monnaies, nos économies vont devenir semblables. Hein, donc c'est le grand rêve de la convergence des économies une fois que l'euro a été créé. Donc à l'époque, on n'était pas 17, hein, aujourd'hui on est 17. Donc je vais toujours utiliser le chiffre de 17. Donc en gros, on allait progressivement se retrouver grâce au fait que nous allons avoir les mêmes taux d'intérêt, les mêmes taux de change, les mêmes objectifs de politique monétaire, etc., etc., des règles budgétaires qui vont avec, on allait se retrouver avec 17 Allemagne, en gros. Hein. Et alors, ceci, évidemment, vous voyez bien, d'abord, je vais vous montrer tout de suite que c'est juste l'inverse qui s'est passé, et ceci, vous voyez bien, rendait la vie extrêmement facile, puisque si vous prenez deux Allemagnes, et deux Allemagnes qui restent deux Allemagnes, parce qu'il ne fallait pas qu'elles se différencient, ben, vous pouvez très bien leur donner la même monnaie, comme il n'y a aucune asymétrie, il n'y aura jamais de problème. Hein. Si deux pays sont parfaitement symétriques dans leur situation économique, ils peuvent sans aucune difficulté avoir les mêmes taux de change et les mêmes taux d'intérêt, donc il n'y a aucun coût à leur donner la même politique monétaire et la même monnaie. Mais ça ne sert strictement à rien, hein, puisque comme ils sont pareils, si vous voulez, oui, vous n'avez aucun gain à en attendre, hein, en raison de la symétrie. Mais il y avait cette croyance, hein, qu'on était dans un grand processus de convergence et pas dans un processus et qui touchait toute l'économie. Donc on allait, au bout de quelques années, se retrouver avec des pays extrêmement semblables et donc un système extrêmement facile à gérer avec une grande homogénéité. Alors, on aurait dû savoir, mais à l'époque, il y avait qu'un petit nombre d'économistes qui criaient que ceci n'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, il s'est passé qu'on a... Alors, attendez, il faut que je vous montre un peu après. Voilà, par exemple, là. Hein, non, ce n'est pas bien non plus. Attendez, j'essaie de vous en trouver un qui soit joli. J'en ai plein, j'ai des trucs incroyables. Voilà. Donc, ça, ce que vous avez là, c'est... Alors, il faut s'habituer à mes graphiques. Hein, donc, c'est joli, vous voyez des couleurs. Et alors, en bas, c'est les dates. Hein, vous voyez, 1996 à 2014. Que j'ai, dans ma banque, on connaît parfaitement l'avenir. Donc, ne regardez pas 2014, c'est de la prévision. Et puis, c'est ici, donc, c'est des pourcents. Donc, là, c'est l'inflation. Et donc, vous voyez qu'on a... regardez pas 2014 à nouveau. Et puis, il peut se passer des choses bizarres. Hein, qu'on a eu, effectivement, ce qui était prévisible, c'est-à-dire la convergence de l'inflation. Regardez, en ce moment, vous voyez, hein, début 2013, les taux d'inflation, ils sont entre 2 et 3 %. Quoi. Donc, évidemment, quand vous avez la même monnaie, les mêmes taux de change... vous avez à peu près la même inflation. Donc, effectivement, on a eu de la convergence nominale. Mais on n'a pas du tout eu de la convergence des économies réelles. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au contraire, les économies réelles sont devenues de plus en plus différentes. Et en particulier, c'est ce sur quoi je vais m'appesantir un peu, la structure de production des économies est devenue de plus en plus différente entre les pays. Regardez, par exemple, ce second graphique ici. Ce que vous avez, c'est le poids de l'industrie dans l'économie d'un pays. Donc, c'est des pourcents. Et regardez la situation aujourd'hui. Alors, je n'ai pas mis tous les pays. Hein. Et puis, j'ai mis le Royaume-Uni, mais c'est juste pour ennuyer nos camarades anglais. Mais regardez pas, évidemment, le Royaume-Uni. Donc, vous voyez cette dispersion incroyable. Le poids de l'industrie, c'est 7% de l'économie, hein, du produit intérieur brut en Grèce. Et c'est 25-27% en Irlande. Si j'avais mis la Finlande, ça serait 30%. Hein. Et vous voyez que ce poids de l'industrie s'ouvre. Hein. Vous voyez d'ailleurs la même chose si vous regardez le poids de l'emploi industriel. Vous voyez que l'emploi industriel, ça va de 7, 8 à 20% des emplois. Hein. Donc il y a des pays qui sont... rester ou devenu même plus industriel. Regardez l'Allemagne, il y a donc un pays intéressant. Le poids de l'industrie en Allemagne à la création de l'euro, c'est à peu près 19% du PIB. Aujourd'hui, c'est 21. Donc l'Allemagne est devenue plus industrielle. Et puis, il y a des pays qui se sont violemment désindustrialisés. Regardez par exemple l'Espagne. Vous voyez, création de l'euro 99, c'est à peu près 16 quelque chose pour cent. Aujourd'hui, 12. Hein. Donc la structure économique des pays, elle ne s'est pas rapprochée, elle a divergé. Hein. Et je vous montre ça parce que le poids de l'industrie, évidemment, joue un rôle absolument central dans l'analyse. Hein. Donc on a des pays qui sont restés de très grands pays industriels, et puis il y a des pays qui se sont fortement désindustrialisés. Vous voyez que la France, d'ailleurs, si vous enlevez le Royaume-Uni, c'est le pays le plus désindustrialisé après la Grèce, hein, ce qui est un immense message d'espoir. Et vous voyez cette ouverture, hein, c'est-à-dire que les pays sont... dans une dynamique de, où ils deviennent de plus en plus différents dans leur structure productive. Alors pourquoi cela ? Bah, exactement parce que j'expliquais à l'instant, hein. C'est-à-dire que du moment que les pays ont le même taux de change, bien, la spécialisation productive se met à l'œuvre, hein, et l'industrie se reconcentre dans un petit nombre de régions. C'est pas très logique d'aller faire des voitures en Grèce ou au Portugal, hein, c'est loin, la population active n'est pas très qualifiée, donc ça serait très compliqué, ça serait beaucoup plus coûteux, il y aurait des coûts de transport très importants. Donc l'industrie se regroupe dans la zone européenne où il y a des avantages comparatifs pour l'industrie. Il y a, c'est plutôt au centre, hein, pour minimiser les coûts de transport. C'est là où il y a les universités qui forment les ingénieurs. Donc c'est quoi ? C'est l'est de la France, c'est ici. Hein, dire, ça ne passe pas vraiment à l'intérieur des frontières des pays, quoi. L'est de la France, le nord de l'Italie, le sud, plutôt le sud et l'ouest de l'Allemagne, l'Europe centrale et les pays nordiques, hein, gros, Finlande, etc. Et puis l'industrie s'en va du Portugal, de l'Italie, et surtout du Sud, de l'Espagne, de la Grèce. Et donc vous avez ce mouvement vers de reconcentration. Et alors évidemment, parallèlement, les pays périphériques, eux, se désindustrialisant, se spécialisent dans d'autres productions. Dans la période du début de l'euro, ce qui a joué aussi un rôle tout à fait central, c'est l'activité de construction. Hein. Ce que vous avez ici, c'est le poids des emplois dans la construction, dans l'emploi total. Et vous voyez un pays comme l'Espagne, par exemple, hein, avec cette croissance incroyable de l'activité de construction, hein, la hausse des emplois de construction, c'est emploi direct dans la construction. Hein. Il faudrait ajouter, évidemment, à ça les banques, le ciment, l'isolation, l'acier, enfin, vous voyez, les promoteurs immobiliers. Là, c'est vraiment les entreprises de construction directement qui représentaient 14% de l'emploi en 2008. Et vous voyez, et montée de la construction, montée du tourisme, montée de la distribution, montée des services à la personne. Et donc, en fait, on voit se constituer deux groupes de pays, des pays qui deviennent le pôle industriel de la zone euro et des pays qui deviennent le pôle de services domestiques non exportables de la zone euro, hein, les pays, essentiellement les pays du sud de la zone euro. Alors juste une toute petite note méthodologique pour expliquer qu'il faut prendre industrie au sens très large. L'industrie, ce n'est pas que l'industrie manufacturière. On va décider d'appeler industrie tous les secteurs économiques qui utilisent des emplois suffisamment qualifiés, qui ont un niveau technologie suffisant et surtout qui exportent. Hein, c'est la grande différence. C'est la différence en fait entre des secteurs exportateurs et des secteurs domestiques, non exportateurs. Par exemple, le cinéma, c'est exportateur, les jeux vidéo, c'est exportateur, la finance, c'est exportateur, mais la distribution, la construction, c'est très peu exportateur. Ça l'est peut-être marginalement, mais oui, très très peu. Donc on voit bien ce qui s'est passé, cette différenciation de l'Europe entre l'Europe industrielle et l'Europe qui se désindustrialise. Alors, et vous voyez ici naître vraiment, c'est là, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est ce que j'essaie d'expliquer à tous les hommes politiques, et ils commencent à comprendre d'ailleurs cela, c'est un message qui commence à passer, mais c'est un message assez nouveau, c'est que ce mouvement de spécialisation, il est parfaitement normal. Alors, dans un instant, je dirais qu'un bout de ce mouvement n'est pas normal, qui peut être lié aussi à de mauvaises politiques, hein, mais qu'une grande partie de ce mouvement de spécialisation est parfaitement normale. À nouveau, personne ne suggère de reconstruire l'industrie du ciment en Floride. Quoi. Floride, c'est fait pour pêcher du poisson, ce n'est pas fait pour faire du ciment. Quoi, hein. Dans tous les États, regardez la France, quoi, hein, regardez l'Italie, regardez les États-Unis, dans tous les États, les régions sont spécialisées. C'est évidemment logique et efficace. Donc il n'y a absolument rien à dire, sauf, et j'y viens tout de suite, puisque ce sera un point aussi important, lorsque ceci résulte de mauvaises politiques. Mais essentiellement, ce qu'on a vu, c'est un mouvement de spécialisation productive, donc de différenciation de ce que fabriquent les pays les uns par rapport aux autres, parfaitement logique et parfaitement efficace. À nouveau, ça serait profondément inefficace qu'on fasse des voitures dans les 17 pays de la zone euro. Quoi. Il y aurait des coûts incroyables de tout type. Mais le problème absolument monstrueux, c'est que, c'est vraiment ici le cœur de la crise, si vous êtes un pays qui devient très industriel, vous allez donc avoir une capacité très importante à exporter, Et cette capacité très importante à exporter, elle va vous donner des excédents extérieurs. Donc vous allez exporter beaucoup, donc vous allez avoir un commerce extérieur excédentaire. Et si vous vous spécialisez dans les services non exportables, vous allez évidemment importer de plus en plus tous les produits que vous ne fabriquez plus, et vous allez devenir un pays structurellement déficitaire. Hein, et ceci, qui avait été absolument pas envisagé par les constructeurs de l'euro, est absolument clair quand vous regardez les évolutions. Regardez par exemple ce qu'on appelle les soldes des balances courantes. Donc ceci, c'est le solde de tous les échanges de biens et services des pays avec le reste du monde. Donc, c'est, vous voyez, c'est, on n'y voit rien, mais c'est joli. Hein. Et regardez juste l'aspect général. Quand le chiffre est négatif, c'est des points de PIB. Ce que vous avez, c'est un déficit extérieur. Donc, prenez par exemple l'Espagne, qui est la ligne bleue. Vous voyez, à la création de l'euro en 1999, l'Espagne n'a pratiquement pas de déficit extérieur. En 2008, l'Espagne a un déficit extérieur qui fait à peu près 11% de son produit intérieur brut. Je reviendrai après sur ce qui s'est passé depuis. Vous voyez que ce déficit disparaît. Mais ça, c'est la crise. Hein, ce n'est pas ce qui fabrique la crise. Regardez le Portugal en rose, hein, 0,12. Regardez la Grèce, hein, 2,16. Donc ces pays, si vous fabriquez que des services, vous allez effectivement importer tous vos produits industriels. Et puis par contre, en haut, donc avec des excédents, des chiffres positifs, vous voyez les Pays-Bas, la Finlande et de plus en plus l'Allemagne. Et l'Irlande, qui est un pays en réalité industriel, hein, qui a juste eu un très très gros problème bancaire, mais qui est structurellement aussi, normalement, vous voyez en orange, hein, un pays excédentaire. Mais regardez l'Allemagne qui est en violet, avec l'Allemagne, dégage des excédents de plus en plus importants, qui sont aujourd'hui entre 6 et 8% d'excédents, hein, par rapport au produit intérieur brut. Alors la France que vous voyez en vert est un cas très inquiétant. Je ne veux pas parler de la France spécifiquement, ce n'est pas le sujet, mais à nouveau, vous pourrez partir avec un petit papier, histoire d'avoir des cauchemars, et ensuite on pourra en parler tout à l'heure. Vous voyez, c'est la ligne vert foncé. On part de 3 points d'excédent et on arrive à 2 points de déficit. Vous voyez, hein. Donc la France est plutôt dans le camp, évidemment, des pays qui se désindustrialisent. Alors pourquoi est-ce que ceci pose problème ? Et pourquoi est-ce que ceci ne pose pas de problème, par exemple, à l'intérieur de la France ? Et donc ça, et si vous comprenez ça, vous avez absolument tout compris, vous avez une avance incroyable sur les institutions européennes normales. Et donc, en gros, la question, c'est pourquoi cette situation où les régions désindustrialisées ont des déficits extérieurs, si c'est la Grèce ou l'Espagne ou le Portugal, ça conduit à une crise, et si c'est l'Auvergne, il y a certainement des Auvergnats dans la salle, mais il faut accepter que l'Auvergne ait un déficit extérieur, parce qu'il y a quand même peu d'industrie. Et si c'est l'Auvergne, ça ne conduit pas à une crise. Il y a sûrement aussi des Corses dans la salle, mais là, j'ose même pas. Alors, et c'est cette raison-là qui est au cœur du problème de fonctionnement de l'Europe. C'est que si vous regardez qu'est-ce qui se passe en Auvergne ? En Auvergne, il y a un énorme déficit commercial, hein, puisqu'on importe beaucoup et on exporte peu. Pourquoi le déficit commercial de l'Auvergne ne fabrique-t-il aucune situation de crise ? Parce que l'Auvergne est dans un État fédéral qui s'appelle la France et que le déficit commercial de l'Auvergne est automatiquement financé par des transferts de revenus, souvent largement publics, hein, mais pas que publics, qui compensent le déficit extérieur. Donc l'Auvergne importe beaucoup plus qu'elle n'exporte. Mais les fonctionnaires en Auvergne sont payés par les impôts de tous les Français. Il y a des Français qui prennent leur retraite en Auvergne et qui reçoivent leur retraite qui est versée ailleurs. Et donc, il y a un flux de revenus. Et à nouveau, les flux de revenus publics sont évidents, quoi. Quand on construit une route en Auvergne, elle est financée par l'État français et pas par la région Auvergne. Enfin, un petit peu, mais enfin, c'est un pays très... Bien sûr, il y a une région, mais enfin, c'est un pays très fédéral. Et donc, ce sont les flux de revenus liés au fait que c'est un État unique qui compense le fait qu'il y a un déficit du commerce extérieur. Et donc, ce déficit du commerce extérieur ne fabrique pas d'endettement extérieur, puisque la région déficitaire reçoit des revenus, hein, qui vont compenser son déficit. Et c'est ces revenus qui vont financer son déficit extérieur. Voilà. Et l'Italie du Sud, hein, c'est un cas parfaitement clair aussi. L'Italie du Sud est un pays où on ne produit pas grand-chose. L'Italie du Sud est dans l'euro et dans l'Italie, et sans aucune difficulté, parce que les impôts des Italiens du Nord transfèrent vers l'Italie du Sud des revenus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de déséquilibre extérieur de l'Italie du Sud. Dans la zone euro, évidemment, c'est extrêmement différent, puisque la zone euro n'est pas du tout un État fédéral. Vous savez que le budget de l'Europe, c'est un tout petit peu plus de 1% du PIB, donc c'est ridicule. En plus, ce budget n'est pas forcément lié à des transferts, il y a un gros morceau, enfin, il y en a un tiers qui est la politique agricole commune, hein, et donc qui n'est pas lié à gérer cette question d'hétérogénéité. Donc l'Europe n'est pas du tout un État fédéral. Et donc quand l'Espagne, la Grèce ou le Portugal ont des déficits extérieurs, ces déficits ne sont pas du tout, pratiquement pas, alors il y a les fonds structurels, etc. Mais à nouveau, ça, c'est dans le pourcent de budget, hein. Les fonds structurels, c'est une cinquantaine de milliards d'euros par an. Vous savez, c'est les investissements qui sont faits par l'Europe dans les régions les plus pauvres, les régions montagneuses, etc. C'est 50 milliards d'euros par an pour un produit intérieur brut de 10 000 milliards. Hein, donc c'est 1,5%. Hein, donc vous voyez que c'est absolument ridicule. Aux États-Unis, les impôts fédéraux, c'est 30% du produit intérieur brut. Hein. Et donc, en l'absence totale pratiquement de flux de revenus ou de transferts publics entre les pays, eh bien, quand l'Espagne ou le Portugal ou la Grèce se retrouvent avec ce déficit n'est pas compensé par des flux de revenus, il est financé par l'endettement. Et donc, dans toute la première phase de fonctionnement de l'euro jusqu'en 2008, les pays déficitaires s'endettent auprès des pays excédentaires pour financer leur déficit. Alors que si on avait été dans un État fédéral, ils ne se seraient pas endettés, ils auraient reçu des revenus. À nouveau, les fonctionnaires grecs sont payés par l'État grec. Donc si on était dans une Europe fédérale, les fonctionnaires grecs seraient payés par les impôts des Français, des Allemands, des Italiens, et pas par l'État grec. Et c'est ça qui équilibrerait les comptes extérieurs de la Grèce. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, autre idée reçue qui est fausse, hein, c'est que ce n'est pas parce qu'on est dans la même monnaie que la personne qui vous prête qu'on peut s'endetter indéfiniment. Parce qu'on a aussi lu, sous de bonnes plumes de camarades économistes dont par charité je cacherai le nom, mais tu vois qui je veux dire, que comme c'était en euros, ça n'avait pas d'importance. Hein, et donc les Allemands accepteraient de prêter aux Espagnols, aux Portugais, aux Grecs, etc., sans limite, parce qu'il n'y avait pas de risque de change, c'était la même monnaie. Ben ça, c'est quand même une bourde totale, quoi. Je veux dire, allez demander à votre banquier ce qu'il en pense. Hein, on est tous les deux en euros, alors tu prêtes par ici. Hein. Mais bien sûr que non. Hein, la solvabilité, elle existe même lorsqu'on est passé dans la même monnaie. Et donc, la crise de l'euro, il faut que vous compreniez bien pour comprendre la suite à ce stade où on en est, la crise de l'euro, c'est la crise d'une crise d'insolvabilité des pays déficitaires parce que désindustrialisés qui doivent s'endetter pour financer leur déficit extérieur. Et quand l'endettement est devenu insupportable, bah comme tout le monde, comme vous avec votre banquier, hein, j'espère que ce n'est pas le cas pour vous, mais sinon on appellera votre banquier, et bien c'est le moment où le prêteur refuse de prêter davantage. Hein, et donc on a une crise d'insolvabilité de l'emprunteur qui a dû trop s'endetter. Voilà la cause de la crise de l'euro. Tout le reste sont des conséquences. Les déficits publics, que je peux vous montrer là, pareil, quand c'est négatif, c'est un déficit. L'Irlande a disparu parce qu'on ne sait plus bien calculer le déficit de l'Irlande, parce que, vous savez, l'État irlandais a récupéré les mauvaises dettes des banques, donc il faudrait que je fasse un graphique qui aille jusqu'au sous-sol. Les déficits publics, vous voyez, apparaissent en 2009. Et si vous regardez les dettes publiques, vous voyez qu'elles décollent à part... Ça, c'est les taux d'endettement public par rapport au PIB qui décollent à partir de 2008 et 2009, sont une conséquence de la crise. C'est parce que les économies s'effondrent avec la crise que les États font des déficits et qu'on a maintenant un problème de dette publique. Et regardez l'Espagne, vous voyez, c'est la ligne un peu marron. En 2008, la dette publique de l'Espagne, c'est 35% du produit intérieur brut. C'est parmi les niveaux les plus bas du monde. Hein. Donc, c'est, à part la Grèce, c'est un cas assez bizarre qui est la ligne noire, c'est que les finances publiques de la Grèce sont un truc assez particulier, hein, où personne, même aujourd'hui, n'est sûr exactement de savoir comment sont faites les additions. Hein. Mais à part la Grèce, les finances publiques ne sont nulle part la cause de la crise. Hein. La cause de la crise, c'est l'accumulation sans fin de dettes extérieures par des pays qui n'ont pas beaucoup d'industrie, donc qui ont des déficits extérieurs, qui doivent s'endetter pour financer ces déficits. Et au moment où les dettes extérieures deviennent excessives, alors, bien évidemment, on arrive à une situation de crise, parce qu'on arrive à une situation d'insolvabilité des emprunteurs, hein, pas, et qui sont plus en état de s'endetter davantage auprès des prêteurs. Voilà. Donc voilà vraiment la cause de la crise. Alors, je voulais vous montrer un graphique, parce que j'en ai tellement, je le retrouverai tout à l'heure. Celui-là, il a complètement disparu. Je voulais justement vous montrer les dettes extérieures, mais ça a complètement disparu. Donc je cherche, mais je ne trouve pas. Donc, si ça me revient, je vous le montrerai. Donc on en est là. Et alors, qu'est-ce qui se passe, évidemment, comme les pays ne peuvent plus s'endetter, et je reviens au graphique de tout à l'heure pour expliquer la fin, ils sont sous une contrainte extrêmement forte, vous voyez, de faire disparaître leur déficit extérieur, puisqu'on ne leur prête plus. Hein. Et sous cette contrainte très forte de faire disparaître leur déficit extérieur, il faut, évidemment, vous voyez que c'est le cas. L'Espagne, aujourd'hui, a un excédent extérieur, ce qui est incroyable. Ils avaient 12 points de PIB de déficit en 2008. L'Italie a pratiquement plus de déficit. Vous voyez. Le Portugal, bientôt, n'aura plus de déficit. Et même la Grèce, bientôt, n'aura plus de déficit. Ces pays, brutalement, ont dû faire disparaître leur déficit extérieur. Comment est-ce que vous pouvez faire disparaître votre déficit extérieur? À court terme, on va parler après du plus long terme, la seule solution, c'est de tuer la demande intérieure. Il faut arrêter d'importer. Vous ne pouvez pas décider d'exporter plus. Exporter plus, il faut avoir des produits, des clients, puis vous n'êtes pas industriel. Donc, vous exporter plus, même si ça n'arrive jamais, ça prendra plein de temps. Donc, la seule technologie que vous pouvez utiliser à court terme pour faire disparaître un déficit extérieur que vous ne pouvez plus financer, c'est de tuer la demande intérieure de façon à arrêter les importations. Et c'est exactement ceci qui s'est produit. Et c'est pour ça qu'on est dans une récession extrêmement violente dans la zone euro. Regardez, par exemple, la croissance de la consommation des ménages. Regardez juste le dernier point qui vous donne la croissance de la consommation sur l'année écoulée. Et c'est moins 2% en Espagne, c'est moins 5% en Italie, c'est moins 6% au Portugal, c'est moins 8% en Grèce. C'est zéro en France et en Allemagne. Enfin, France et l'Allemagne ne sont pas les pays en crise. Mais dans tous les pays en crise, vous avez un effondrement de la consommation depuis 2008. Hein. La demande intérieure dans un pays comme l'Espagne a baissé de 30%. Rendez-vous compte, 30% de baisse cumulée de la demande intérieure. Hein. Et c'est ceci qui a fait chuter les importations, puisque quand on consomme plus, on n'importe plus. Et c'est la chute des importations qui a, évidemment, rétabli l'équilibre du commerce extérieur. Et c'est pour ça qu'il y a une crise, hein, puisque la seule façon, à nouveau, d'arrêter de s'endetter, puisqu'on ne vous prête plus, c'est, imaginez-vous, vous vivez à crédit, tout d'un coup, votre banquier vous dit « Bon, les gars, c'est fini, je ne vous prête plus ». Vous allez instantanément consommer moins. C'est la seule façon de rééquilibrer les choses. Et comme vous allez consommer moins, vous allez être en récession. Et donc, vous allez être en croissance négative. Et dans ces pays, la croissance est négative, le chômage monte, etc. Et on a évidemment toutes ces caractéristiques de crise que nous avons aujourd'hui. Mais il faut voir que cette crise, c'est une conséquence absolument inévitable de l'obligation dans laquelle ces pays se trouvent aujourd'hui de ne plus avoir de déficit extérieur pour ne plus avoir besoin de s'endetter puisqu'ils ont épuisé leur capacité d'endettement. Voilà. Alors, évidemment, juste avant que je passe à ma seconde partie et je serai un peu plus... parce que ça, c'était vraiment central, parce qu'après, le reste, ça coule tout seul. Si on est d'accord avec ça, après, le reste, hein, c'est des conséquences assez directes. Alors, évidemment, on a aussi aidé ces pays, c'est-à-dire que Ils n'ont pas en une seconde fait disparaître leur déficit extérieur. Et comme les prêteurs privés, les banques, les assureurs, etc., les caisses de retraite ne voulaient plus leur prêter, je vais dire un mot d'ailleurs aussi là-dessus, il a fallu, en attendant que leur déficit extérieur disparaisse, que de façon transitoire, on mette en place des financements publics. Et c'est pour ça qu'on a mis en place tous ces fonds dont vous avez peut-être entendu parler, le FSF, le SM, etc., qui sont des fonds publics, qui ont prêté à ces pays, mais transitoirement, pour les financer, le temps qu'il fallait pour ces pays pour faire disparaître leur déficit extérieur. Ça ne peut pas être une solution de long terme que ce soit des fonds publics qui financent ces pays et qui leur ajoutent de la dette. Simplement, on a ajouté de la dette publique en haut de la dette privée qui était déjà là, parce que sinon, ces pays faisaient faillite. Si vous avez un déficit, vous ne pouvez pas le financer, vous faites faillite. Donc, on a évité la faillite des pays en leur prêtant des fonds publics pendant quelques années. Ceci est en train de se corriger, vous voyez, puisque les déficits extérieurs disparaissent. Mais ça ne peut pas être un mécanisme de résolution de crise à long terme. C'est simplement de la dette en plus de la dette. Et ceci n'est qu'un mécanisme transitoire qui est simplement fait pour lisser le passage à un nouvel équilibre où ces pays n'ont plus de déficit extérieur. Voilà, voilà la crise. Si tout à l'heure, ce n'est pas clair. Enfin, c'est clair, à gauche, oui, bon, c'est clair. Alors, voilà. Donc, juste un petit mot, d'ailleurs, pour dire que quand vous lisez dans votre journal du soir que la crise, c'est une crise des attaques spéculatives sur les devises, sur les dettes de ces pays, les attaques spéculatives, il y en a, mais c'est totalement marginal. Hein, c'est totalement marginal. Quand vous regardez la taille des flux spéculatifs sur les dettes publiques, c'est quelques pourcents du problème. Ce qui s'est passé, ce n'est pas du tout des attaques spéculatives, c'est que votre assureur ou votre caisse de retraite, qui sont en général des gens extrêmement prudents et conservateurs, ont décidé que ce n'était plus du tout dans votre intérêt d'acheter les dettes de l'État espagnol ou italien ou portugais. C'est ça qui s'est passé. Donc ce n'est pas de la spéculation, c'est un réflexe de trouille de la part d'investisseurs extrêmement prudents qui ont dit « je ne peux pas faire courir le risque à mes clients d'acheter des dettes de pays qui peut-être ne rembourseront pas hein ». Et donc on n'est pas dans une crise spéculative. Il y a des crises spéculatives, évidemment, comme la crise des actions au début des années 2000. Mais ici, on est dans une crise de solvabilité de ces pays. Hein, et c'est quelque chose qui est, qu'il faut rappeler, parce que parfois, on biaise l'analyse. Voilà. Voilà, donc étape 1, on sait pourquoi on est en crise et on sait que ça vient donc, d'un phénomène profond qui est l'hétérogénéité des structures économiques. Alors, étape 2, je reviens un peu en arrière. J'ai un peu exagéré exprès, mais j'avais dit que je corrigerais. On ne peut pas quand même attribuer la totalité de l'hétérogénéité des structures économiques simplement à une spécialisation productive optimale. Hein. Il y a aussi un bout de l'hétérogénéité et de la désindustrialisation qui est lié à de mauvaises politiques économiques, hein, qui est lié au fait que les pays ont fait des erreurs de politique économique qui ont contribué à la désindustrialisation. Donc, en général, dans chaque pays, vous avez un mélange, hein, une partie de l'hétérogénéité ou de la désindustrialisation, comme vous voulez, qu'on appelle dans le livre avec Isabelle la bonne hétérogénéité, vient effectivement d'un processus parfaitement normal qui est la spécialisation des régions dans une union monétaire qui est parfaitement légitime et parfaitement efficace. Une partie qu'on appelle la mauvaise hétérogénéité vient de mauvaises politiques économiques. Alors il y a plein de mauvaises politiques économiques. Je suis en train de faire un autre livre sur 40 ans d'erreurs de politique économique en France. On aurait pu écrire 12 tomes si on avait voulu. Mais ce qui a concentré l'attention dans cette crise, parmi plein d'erreurs de politique économique, c'est en particulier les problèmes de compétitivité. Et donc, je vais dire un mot des problèmes de compétitivité et un mot de la façon dont on essaie de les corriger. Puisque ici, si un pays perd sa compétitivité dans une union monétaire, ça ne procède pas. Sa désindustrialisation, par exemple, ne sera pas liée à une évolution normale, naturelle, liée au fait qu'il n'est pas doué pour faire de l'industrie pour des raisons légitimes. C'est juste qu'il est trop cher, quoi, hein. Et donc ceci, normalement, ne devrait pas se produire. Ça n'a aucun rapport avec le fait que, par exemple, en Grèce, on n'a pas envie de faire de l'industrie parce que la Grèce, c'est très loin, qu'il n'y a pas de structure pour le faire. Il y a des problèmes de transport, il y a des problèmes de qualification, des problèmes d'innovation. Ici, on a une autre explication. Alors, qui pèse très, très peu dans certains pays. En Espagne, par exemple, il n'y a aucun problème de compétitivité. L'Espagne est un pays où les coûts salariaux sont pas chers, la produire en Espagne est vraiment pas cher, et en Italie, en France, etc., il y a des problèmes de compétitivité. Donc certains pays ont ce problème de compétitivité, et donc une partie de leur désindustrialisation n'est pas liée à un processus normal de spécialisation, à nouveau, est liée au fait que leurs coûts de production sont trop élevés. Alors il faut faire très attention ici aussi à ce que vous lisez dans les mauvais journaux, parce que en général, on vous montre l'évolution des coûts de production depuis la création de l'euro. Et alors, quand vous regardez... Alors, je vais le reprendre comme ça. Attendez, je vais plutôt le prendre. Je vais en prendre un qui ressemble plus. Voilà. Voilà ce qu'on vous montre en général. Voilà l'évolution des coûts de production depuis la création de l'euro dans l'industrie. Hein. Alors, je vais même prendre l'ensemble de l'économie, parce que sinon... Pardon. Non, mais je vais prendre l'industrie, ça marche pas. Et donc, prenez l'Espagne, par exemple. Vous voyez, l'Espagne, on vous dit, c'est la ligne grise. Regardez depuis le 96, ici, hein, donc la fin des années 90, les coûts de production dans l'industrie espagnole ont augmenté de presque 40%. Et donc, c'est normal qu'ils aillent très, très mal. Oui, mais attention, Ce qui compte, c'est normal, l'Espagne au début, à la fin des années 90, c'était un pays pauvre avec des salaires très bas, c'est normal que les salaires ont augmenté. Ce qu'il faut regarder, ce n'est pas l'évolution des coûts de production depuis la fin des années 90, c'est le niveau aujourd'hui des coûts de production. Et un pays qui était initialement pauvre peut avoir eu une hausse forte de ses coûts de production en restant extrêmement compétitif. Or, c'est le cas en Espagne. L'Espagne, je l'ai dit, est un pays très compétitif. Produire une voiture en Espagne, ça coûte environ 25% de moins qu'en France. Et donc, on n'a aucun problème de compétitivité en Espagne. Où est-ce qu'on a un problème de compétitivité ? La Grèce. Bon, enfin, en Grèce, de toute façon, personne n'a envie d'aller produire en Grèce. Vous fabriquez une voiture en Grèce, vous la ramenez en Allemagne, elle est volée dans les Balkans, donc vous voyez, ce n'est pas tellement pratique. Mais dans les grands pays, essentiellement deux pays ont un problème de compétitivité important, qui sont la France et l'Italie. Vous voyez que la France, ça ne se voit pas, parce qu'en fait, le problème de compétitivité, il existe depuis longtemps, quoi, donc il s'est que très très peu aggravé par rapport à l'Allemagne. L'Italie, le problème de compétitivité s'est fortement aggravé. En Italie et en France aujourd'hui, la production d'un bien industriel moyen coûte à peu près 20% de plus qu'en Allemagne. Et vous voyez que ce n'est pas simplement les salaires, c'est les salaires corrigés du niveau de productivité, etc. Donc on a deux pays qui ont un très gros problème de compétitivité par rapport à l'Allemagne. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ici ? Et c'est ici que j'ai un peu de problème avec la technologie qui est suggérée par l'Union européenne, mais que peut-on faire d'autre ? L'Union européenne dit une chose très simple, enfin les institutions européennes, mes collègues allemands, quand un pays a un niveau de compétitivité faible, donc des coûts salariaux de production trop élevés, à nouveau c'est des coûts salariaux par unité produite, donc ce n'est pas que les salaires, c'est les salaires corrigés de la productivité. Si ce pays était en régime de change flexible, il n'y a pas de complication, il dévalue, quoi. Vous savez que la pratique historique du Fonds monétaire international, c'est de regarder ça. Et si on décide qu'un pays a un problème chronique de compétitivité coût, on lui dit tu dévalues et tu rétablis ta compétitivité en dévaluant ta monnaie. Donc évidemment, ici, on ne peut plus le faire. Et donc on est passé à un autre concept qu'on a baptisé du nom de dévaluation interne. Le concept de dévaluation interne, c'est de dire comme on ne peut plus dévaluer, eh bien on va remplacer la dévaluation par quelque chose d'équivalent, qui est une baisse des prix et des salaires du pays. Et vous voyez qu'en théorie, ça marche très bien. Supposez, repartons de l'idée que l'Italie est 20% trop chère par rapport à l'Allemagne, ce qui est à peu près juste. Dans le temps, on dévaluait la lire de 20%, et du coup, l'Italie redevenait compétitive instantanément. Aujourd'hui, on dit, comme on ne peut plus le faire, il y a une autre solution radicalement, strictement équivalente, c'est qu'il faut que les prix et les salaires en Italie baissent de 20%. Et si on arrivait à faire ça, effectivement, ça marcherait très bien, puisqu'on retrouverait la compétitivité de l'Italie. Et comme les prix et les salaires baisseraient de la même quantité, eh bien, vous n'auriez pas de problème de pouvoir d'achat des Italiens. Leur salaire aurait baissé de 20% et les prix auraient baissé aussi de 20%. Et donc, le pouvoir d'achat des Italiens ne baisserait pas. Donc, on ferait quelque chose qui serait strictement une dévaluation. Alors ça, c'est la thèse vraiment très forte aujourd'hui. Si vous parlez, vous savez, dans le Conseil d'analyse économique qui continue d'exister auprès du Premier ministre, on a mis quelques camarades allemands. Et alors, c'est assez intéressant, parce que c'est vraiment la thèse pure des Allemands, qui est de dire, juste pas à réfléchir, quoi, je veux dire. Les pays pas compétitifs doivent faire des dévaluations internes. Et ça paraît, sur le papier, très séduisant. Comment vous faites des dévaluations internes ? Essentiellement, en plus, elles se font toutes seules. Parce que quand le pays commence à aller mal, le chômage monte. Comme le chômage monte, les salaires baissent. Et comme les salaires baissent, normalement, les prix baissent. Donc, ce n'est pas une politique publique de faire baisser les dévaluations internes. C'est simplement une réaction normale de l'économie à la crise économique, quoi, je dirais, à la montée du chômage et à la perte de compétitivité. Et alors, on a deux problèmes qui sont assez abominables et qui font que, pour l'instant, ce truc-là, cette évaluation interne, fabrique des choses, soit ne marche pas du tout, et ça c'est le cas de la France, soit fabrique une catastrophe, et c'est le cas des autres pays européens. Alors, cas de la France, je vais à vous, je ne veux pas parler de la France, mais vous savez, c'est le cœur même de ce qui est en train de se négocier, ou qui est apparemment pour l'instant fini de négocier entre le patronat et les syndicats sur la flexibilisation des salaires, sur le fait que les salaires puissent éventuellement baisser dans des entreprises qui vont mal. Jusqu'à présent, en France, les salaires n'ont aucun rapport avec la situation économique. C'est-à-dire que qu'on soit au plein emploi ou qu'il y ait plein de chômeurs, qu'on soit compétitif ou qu'on ne soit pas compétitif, en France, les salaires augmentent toujours exactement pareil. Hein. Il n'y a pas du tout de lien entre les hausses de salaire et la situation de l'économie. Et donc, il ne peut pas y avoir de dévaluation interne, puisque même quand ça va très mal, les salaires ne ralentissent pas. Hein. Mais peut-être que ceci va changer si on change la nature des relations sur le marché du travail, comme ceci a l'air de vouloir commencer à être le cas. En Italie, par contre, en Italie, en Espagne, alors dans plein de pays, hein, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en dehors d'Europe, hein, au Portugal, bah, quand il y a du chômage, les salaires très, 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 très vite ralentissent. Hein, et alors, on peut le regarder, d'ailleurs. Hein, je vous montre là, ici, les salaires... Alors, pardon, non, c'est pas l'Australie que je voulais vous montrer, mais il y a... Ah, bah alors là, non, ça veut pas me montrer... Non, mais je l'ai enlevé. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer autre chose. Donc, les salaires très, 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 très vite ralentissent, mais ce qu'on a vu, c'est que les prix ne ralentissent pas. Il y a une énorme rigidité des prix. Alors, qu'est-ce qui se passe quand les salaires ralentissent et que les prix ne ralentissent pas ? Bah, c'est que le pouvoir d'achat baisse. Hein, parce que les salaires baissent, c'est pas les prix, quoi. Hein. Et alors, regardez ce que ça fait. Ce que vous avez ici, c'est la hausse des salaires réels, c'est-à-dire des salaires corrigés par les prix. Alors, vous voyez, la Grèce, moins 9, le Portugal, moins 7, l'Espagne, moins 3, l'Italie, moins 2, la France, 0, hein, même, il ne se passe rien. Enfin, et on a donc une contraction considérable du pouvoir d'achat parce que les prix, eux, ne ralentissent pas, même quand les salaires baissent. Et d'où est-ce que ça vient, ça ? Ça vient de ce que les entreprises ont fait des marges avec la baisse des salaires. Comme les salaires baissent, les entreprises ont augmenté leurs profits et elles n'ont pas rendu les profits sous forme de baisse des prix. Et ceci est vrai dans tous les secteurs, hein, l'industrie, la distribution, les services. Alors, en fait, ce que vous voyez, on touche du doigt quelque chose qu'on croyait qu'en Europe, les marchés des biens et des services ou de la distribution étaient concurrentiels. Donc, quand ça allait mal, les prix baissaient. Et on pensait que les marchés du travail n'étaient pas concurrentiels. C'est-à-dire, quand ça allait mal, les salaires ne baissaient pas. En fait, c'est l'inverse. Alors, je ne parle pas de la France. En France, il n'y a rien qui bouge jamais. Hein. Mais si vous regardez l'Espagne, le Portugal, même le Royaume-Uni, la Grèce, etc., l'Italie, quand ça va mal, les salaires baissent, mais pas les prix. Hein. Donc, c'est le marché du travail qui est concurrentiel, alors que le marché des biens, des services, de la distribution n'est pas concurrentiel. Alors ça, c'est absolument catastrophique pour cette idée de dévaluation interne, qui à nouveau sinon est une idée intelligente, bien sûr, hein, mais ici ça ne marche pas, parce que, un, comme les prix ne baissent pas, ben, le pays ne gagne pas de compétitivité, ce qui compte c'est le prix auquel il vend ses produits, donc il compte, regardez les prix à l'exportation de l'Espagne, continuent à augmenter exactement comme avant, quoi, hein. Donc il n'y a aucune amélioration de la compétitivité du pays, puisqu'il n'a pas de baisse de ses prix, et deux, il tue sa demande intérieure, puisque les salaires réels baissent, hein, puisque les salaires baissent, ce n'est pas les prix. Alors, cette baisse de la demande intérieure, on a vu il y a un quart d'heure, elle est par ailleurs de toute façon nécessaire pour rééquilibrer le commerce extérieur. Mais simplement, on a bien un rééquilibrage du commerce extérieur, mais il ne reflète en rien une amélioration de la compétitivité du pays. Il reflète simplement la chute du pouvoir d'achat qui est liée au recul des salaires, pas accompagné par des baisses de prix. Donc, il me semble qu'il y a un message très important pour la politique économique, c'est qu'on a un très gros problème de concurrence et de compétitivité, de degré de la concurrence sur le marché des biens et des services, et que c'est quelque chose qu'il faut traiter et qu'on ne sait pas traiter. Hein. Vous savez, lisez le rapport Attali, dans le cas français, les marchés de la distribution des biens, des services divers sont extraordinairement pas concurrentiels, il n'y a pas assez de concurrence là-dessus, et donc comme il n'y a pas de concurrence, ben, les prix ne baissent jamais, quoi, même quand ça va mal. Hein, et comme les prix ne baissent pas comme ça va mal, on n'a pas cet ajustement des prix qui ramènerait de la compétitivité. Voilà. Et le pire, c'est que comme ceci tue la demande, eh bien on fait quelque chose qui est absolument dramatique, c'est que les entreprises ont arrêté d'investir, mais il n'y a plus de demande, quoi. Hein. Et si vous regardez l'investissement des entreprises, vous voyez qu'il a, sur un an, hein, vous voyez, il a baissé de 20% en Grèce, mais il a baissé de 12-13% en Italie, il a baissé de 8% en Espagne, il a baissé de 6% en Allemagne. Hein. Ben, il n'y a plus de demande. Hein. Les Allemands, ils vendent aux autres et les autres ne consomment plus. Et comme on n'investit plus, eh bien, on est en train, pas du tout de préparer l'avenir, on est en train de tuer l'avenir, puisqu'on est en train de détruire de la capacité de production. Alors, j'ai un graphique extraordinaire qui m'était inspiré par un restaurant italien qui est ici, vous voyez. Et ce que vous voyez là, c'est les capacités de production de l'industrie, hein, cette espèce de vermicelle. Et à part l'Allemagne, vous voyez l'effondrement de la capacité de production de l'industrie dans ces pays. La capacité de production de l'industrie a baissé de 20, 15, 20, 25% suivant les pays, parce que les entreprises ont arrêté d'investir. Et donc, on n'est pas dans un ajustement qui prépare l'avenir. L'ajustement qui prépare l'avenir, c'est comme l'Allemagne dans les années 2000. Les salaires baissent, la profitabilité augmente, les entreprises investissent énormément. Et comme on investit énormément, on fabrique de la capacité. Et là, on peut se remettre à exporter. Et à la fin, on recrée des emplois et on est capable d'augmenter les salaires. Ici, on est dans un truc dramatique où l'économie est en récession violente. Comme l'économie est en récession violente, et en plus, je ne peux pas parler de tout aujourd'hui, que dans ces pays, les banques ne vont pas bien du tout, ont arrêté de prêter ou prêtent très cher, les entreprises n'investissent plus. Comme les entreprises n'investissent plus, on détruit de la capacité, et donc on est en train de détruire l'avenir, quoi, je dirais. Dans un pays où la capacité de production de l'industrie a baissé de... Regardez, par exemple, l'Espagne, c'est la ligne grise. Vous voyez, on était à 130, on est presque à 100. On a perdu 25% de capacité de production de l'industrie depuis 2009. C'est monstrueux, quoi. Comment voulez-vous que ce pays se relève en détruisant encore plus son industrie? Ils ne sont pas de se réindustrialiser, ils sont en train de nettoyer ce qu'il leur restait d'industrie, quoi. Et donc, c'est effrayant, c'est les conséquences de cet ajustement. Donc, c'était juste une parenthèse, parce que ce n'est pas totalement central dans mon argumentation qui est sur l'hétérogénéité, mais le processus d'ajustement de la compétitivité que l'Europe est en train de mettre en place aujourd'hui est absolument dramatique dans ses conséquences à moyen terme sur la capacité de production de ces pays. On est en train de détruire du potentiel de croissance dans ces pays dans des proportions totalement considérables. Et ceci, ce graphique-là, j'arrête pas de le montrer à des hommes politiques, à des responsables européens, ils me disent « Oh nom de Dieu !» Parce que personne même ne sait qu'il se passe ça, quoi. Je veux dire, c'est un truc effrayant. Parce que vous voyez, on vit dans l'idée un peu convenu qu'on souffre d'abord, puis ça ira mieux après. Donc là, c'est sympa, parce qu'on souffre d'abord et ça sera pire après, quoi. Donc c'est quand même le truc qu'on a envie de regarder. Alors, je passe à ma troisième partie.